Durant l'intitulé de votre chronique, on s'est regardé, Véronique et moi, en se disant pourquoi ? Pourquoi est-ce que David, aujourd'hui, veut nous parler d'une guerre civile entre chimpanzés en Ouganda ? Et bah, en fait, il y a une étude très sérieuse qui vient d'être publiée.
Bah oui, tout à fait. En fait, elle est publiée dans la revue Science, qui est la revue de référence en sciences au niveau international. Et en fait, c'est vraiment fascinant. En fait, moi, c'est une étude dont j'avais pris connaissance il y a déjà quelques années. Et il y a notamment un documentaire qui était sorti sur Netflix qui s'appelle L'Empire des chimpanzés, qui est incroyable au niveau réalisation, au niveau image. Et on rentre vraiment dans la peau des chimpanzés, comme si c'était des chimpanzés qui avaient filmé eux-mêmes un documentaire sur les chimpanzés. Et alors, on apprend beaucoup de choses sur ce fameux groupe en Ouganda, qui se trouve dans la forêt de Ngogo. Et en fait, c'est le plus grand groupe de chimpanzés jamais observé au monde, et ça fait 30 ans qu'il y a des chercheurs qui les étudient. Et alors ils se sont rendus compte que pendant 20 ans ces chimpanzés vivaient de façon relativement pacifique, comme tous les groupes de chimpanzés, avec de temps en temps des conflits, etc. Mais qu'à un moment donné il s'est passé quelque chose et il y a eu une division dans le groupe à partir de 2015. Et alors ils ont essayé déjà de comprendre pourquoi ces chimpanzés se sont divisés dans des chimpanzés qui vivaient ensemble, qui étaient entre guillemets des frères, qui faisaient partie du même groupe. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné ils se sont divisés? Et à partir du moment où ils sont divisés, progressivement, ils ont commencé à moins se fréquenter, à fuir, et puis à avoir des comportements agressifs les uns envers les autres, jusqu'à donner en fait des deux groupes distincts qui envoyaient des patrouilles pour commettre des meurtres et des agressions vraiment très violentes envers l'autre groupe.
Enfin, ce qui n'était pas le cas avant.
En fait, ce qu'on a déjà documenté chez les chimpanzés, c'est que les chimpanzés sont très xénophobes. Donc, c'est-à-dire que ils peuvent être très altruistes, très empathiques entre eux, mais face aux autres groupes qu'ils ne connaissent pas, ils peuvent avoir des conflits parfois mortels. Même si les conflits mortels sont toujours rares, parce qu'il y a trop de risques de blessures, etc. Mais avec des compétitions aussi pour le territoire. Donc ça, c'est assez bien connu, assez bien documenté. Mais ce qui a été documenté pour la première fois, c'est qu'un même groupe s'est divisé et puis ils se comportaient entre eux comme si c'était des inconnus, en fait.
Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment pour que ce groupe se divise et que les anciens amis, si on peut dire, deviennent ennemis et se tapent sur la tronche ?
Oui, c'est vraiment une guerre fratricide. Alors, on peut faire des parallèles avec l'être humain, on le fera après. Mais alors, ils ont pu analyser plusieurs choses. En fait, il faut savoir que dans les groupes de chimpanzés, il y a des individus qui sont très importants pour souder le groupe. Ça peut être le mâle alpha, ça peut être des femelles aussi qui ont tendance à apaiser les relations. Donc, des individus qui ont un rôle très important. Et en fait, il y a eu une épidémie d'une maladie respiratoire qui a tué pas mal d'individus qui avaient apparemment un rôle important à jouer dans le fait de souder le groupe. Et puis, il y a un nouveau mâle alpha qui est apparu à un moment donné qui s'appelle Jackson. On le voit très bien dans le documentaire, c'est vraiment impressionnant. Et lui, alors il y a deux formes de mâle alpha. Alors, c'est intéressant parce que le concept du mâle alpha est souvent mal compris. À la base, un bon mâle alpha, c'est un mâle qui s'occupe déjà des plus faibles, qui assure la cohésion du groupe, qui gère les conflits, qui assure la protection du groupe aussi et qui n'a pas forcément. Qui n'est pas forcément le plus fort physiquement. C'est celui qui arrive à faire des coalitions. Et il y a un côté très politique, en fait, chez les chimpanzés. D'ailleurs, il y a un bouquin qui est sorti dans les années 80 qui s'appelle La politique du chimpanzé. Et dans le documentaire, on voit à quel point ils sont tout le temps en train de s'observer et d'analyser les relations que les uns ont avec les autres. Et par exemple, la politique, faire des coalitions, c'est par exemple, moi, je vais aller t'épouiller, ce qu'on appelle le grooming. Et puis toi, tu m'épouilles en retour. Donc, on crée un lien. Et puis, du coup, à deux, on peut se mettre ensemble pour renverser le mâle alpha, par exemple. Mais tout ça, ça prend des mois et des années. Et ce qu'on voit, c'est que, en fait, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un mâle alpha qui était un peu brutal, et peut-être que ça a joué aussi dans la division du groupe. Et donc, il y a toute une série de facteurs qui ont pu jouer. Et ce qu'ils ont constaté, en fait, c'est qu'à un moment donné, les deux groupes vivaient de manière relativement indépendante, et ils ont commencé à se fréquenter de moins en moins. Et l'hypothèse des chercheurs, c'est ce qu'appelle l'hypothèse relationnelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se fréquente plus, ben on se voit plus, on communique plus, on n'a plus de contact les uns avec les autres. Alors pour les chimpanzés, il n'y a pas la parole en elle-même, mais par exemple, il y a énormément de choses qui se font pour maintenir le lien social. Et ce lien s'est délité petit à petit, et au final, ça a créé deux groupes quasi qui étaient étrangers, alors qu'ils se connaissaient.
Mais de là à parler de guerre civile, qui est un terme qui a été véritablement utilisé et pas uniquement médiatiquement.
Tout à fait, dans la recherche. En fait, on essaye de comprendre l'origine de la guerre. Donc, en fait, les anthropologues, les primatologues essayent de faire des comparaisons entre ce qu'on observe chez les chimpanzés, les bonobos et les humains, parce que ce sont les espèces les plus proches de nous. Et oui, on peut utiliser ce mode de guerre parce qu'en fait, c'est planifié. On le voit très bien dans le documentaire. En fait, il y a un moment donné où les mâles se mettent ensemble, et parfois les femelles aussi, se mettent ensemble et partent en file indienne vers le territoire de l'autre pour mener des expéditions punitive. Et tout ça est stratégique, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'en prendre à n'importe qui.
Ils ne le font pas dans le but de se nourrir ou de récupérer du territoire. Ils le font véritablement dans le but de nuire à l'autre.
Oui, non, en fait, ils attaquent les autres pour récupérer des territoires, mais ils savent très bien qui attaquer, et parfois aussi on se demande s'il n'y a pas une sorte de violence gratuite de s'en prendre à un ennemi en fait. Mais souvent ils ciblent quand même les mâles qui ont un rôle important, et c'est souvent des mâles qui tuent des mâles, ça ouais. Mais en fait, il faut savoir aussi que derrière ça, il y a énormément de mécanismes de prévention de la violence chez les chimpanzés comme chez les humains, qui fait que c'est relativement rare, et c'est ça qui c'est ce côté spectaculaire, c'est la première fois que c'était documenté à ce point-là, et c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, mais ces mâles, ils se mettent ensemble, ils partent comme ça en file indienne, et puis ils s'arrêtent, ils observent, et puis à un moment donné, ils décident d'attaquer. Et donc, en fait, il y a un côté stratégique derrière. C'est pas genre, c'est pas une pulsion agressive qui sort de nulle part, quoi. Et c'est pas envers n'importe qui non plus. Et c'est là où c'est, bon, il y a un côté un peu évidemment interpellant pour, par rapport à l'être humain. Mais on se dit, les chercheurs se disent, mais en fait, si on fait le parallèle avec les êtres humains, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on arrête de se parler, quand on arrête de se fréquenter, quand on ne se voit plus, quand on ne dialogue plus, on ne se comprend plus, etc., on peut devenir étranger. Et ça, et on sait, même dans les familles, ça arrive parfois, que des frères et sœurs peuvent se séparer, et puis à un moment donné, ça peut donner naissance à des conflits, parfois très très violents, pour encore plus violents qu'envers des étrangers. Et ça, c'est un peu quand même, c'est assez interpellant. Ouais.
David Bertrand, je rappelle, vous êtes professeur de psychologie, ouais. C'est vrai que vous venez de parler de ce lien, parce qu'en vous écoutant, on se dit, bah, oui, mais ça nous fait penser à des conflits, évidemment, mm-hmm. que l'on a ici, que l'on peut avoir entre voisins qui s'entendent bien et qui, du jour au lendemain, se détestent. Mm-hmm. D'expéditions punitives, ça existe aussi. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut vraiment tisser des liens et retrouver des mêmes mécanismes psychologiques entre ce conflit entre chimpanzés, cette guerre civile entre chimpanzés, et aujourd'hui certains mécanismes humains. Est-ce que vraiment il y a des liens aujourd'hui qui sont prouvés, qui nous permettent de comprendre que, à quel point on est des primates ?
Ouais, alors c'est prouvé, et en même temps c'est toujours des hypothèses. En fait, l'idée c'est évidemment l'être humain n'est pas un chimpanzé. L'erreur c'est quand on compare une espèce à une autre, c'est de penser qu'elles sont les mêmes. Non, nous ne sommes pas des chimpanzés. Par contre, on a un ancêtre commun, donc les chimpanzés sont d'un point de vue biologique très très proche de nous. On partage plus ou moins, on dit souvent, c'est plus ou moins 98-99% des gènes en commun avec eux, même si c'est un peu remis en question. Pareil avec les bonobos, etc. Le problème, c'est que si vous comparez l'humain à une seule espèce, il y a un biais. Et c'est pour ça que notamment certains disent, n'oublions pas notamment les bonobos, parce que chez les bonobos, par exemple, la xénophobie est beaucoup moins forte. Et par exemple, on n'observe pas de conflits aussi violents entre groupes étrangers. Les groupes peuvent se mélanger, jouer ensemble, puis repartir chacun de leur côté, ce qui n'existe pas chez les chimpanzés. Mais donc oui, il y a des parallèles, parce qu'en fait, on a un ancêtre commun. Et alors, c'est comme si on avait hérité à la fois du côté obscur et du côté positif, c'est-à-dire on est tous capables d'empathie, d'altruisme, d'aider les plus faibles. On le voit aussi chez les chimpanzés, les individus les plus faibles parfois sont aidés, les plus âgés sont nourris par les autres, etc. Donc il y a un point commun, et alors on le voit aussi dans les comportements violents, et certains se disent ben oui, peut-être qu'en nous on a en fait une dimension dans notre nature, peut-être cette dimension de violence qui est là, et tout le système qu'on met en place en fait c'est pour éviter que cette violence arrive, et c'est pour ça qu'il existe notamment, enfin moi je fais pas mal de parallèles notamment avec les relations internationales, ça m'intéresse pas mal entre la psychologie, les relations individuelles, les relations internationales, et on constate quand même qu'il y a toute une série de mécanismes qui servent quand même à prévenir la violence et qui sont similaires entre espèces. Par exemple le fait, le contact physique, le fait de vivre ensemble, le fait aussi par exemple de se réconcilier, ça a été observé la première fois dans les années 80, où on a vu que les chimpanzés avaient des mécanismes de réconciliation après un conflit pour éviter que ça dégénère. En fait, il y a énormément de mécanismes qui empêchent la violence et le conflit, mais de temps en temps, ça ne suffit plus, et puis le conflit éclate. Et ça, c'est quand même des parallèles assez frappants avec l'être humain.
Ouais. Mais je pensais justement qu'effectivement, chez les chimpanzés, ou en tout cas chez les groupes sociaux, pas uniquement ouais. chez les chimpanzés, le but, c'était de ne pas forcément en arriver à la mort de l'autre, ouais. Et que, par exemple, quand il fallait remplacer le mâle alpha, le futur mâle alpha ne tuait pas l'ancien mâle alpha, mais faisait en sorte qu'il capitule quelque tout part dans la bataille. Et donc, il n'y avait pas une espèce de meurtre gratuit. Mais donc, ici, quand il y a une forme de guerre comme celle-ci, mm-hmm. il y a une forme de meurtre gratuit dans certains cas.
Et c'est exactement pour ça que cette étude est sortie et est vraiment spectaculaire, parce que c'est assez rare, en fait. Et donc, c'est vrai que souvent, on a tendance à se dire que le meurtre et la violence, c'est quelque chose de fréquent, mais comme vous dites tout à fait de manière très juste, non, il y a énormément de mécanismes qui empêchent le meurtre, qui empêchent la mort, qui empêchent la violence physique grave. Et c'est intéressant parce que, par exemple, si vous voyez les canines de chimpanzés, notamment des mâles, elles sont énormes, c'est comme des poignards. Et en fait, même quand ils se battent, on voit qu'ils visent toujours des zones qui sont non vitales et qui vont jamais utiliser leur canine à 100%. Sauf dans certains cas d'expédition, par exemple, vous avez 3-4 mâles qui piègent un autre mâle et là qui peuvent le tuer.
Parce qu'ils décident de le tuer. Et ils décident, en fait, de nouveau, le lien avec
ils décident de le tuer. Il y a un cas similaire découvert, notamment c'est de Franz de Waal, qui est un grand primatologue, il avait documenté ça, lui, dans un zoo. Il y avait une rivalité entre trois mâles dans un zoo. Alors, le problème des zoos, c'est que les mâles ne peuvent pas vraiment s'échapper. Donc, et les gardiens l'avaient vu. Donc, ils faisaient en sorte que pendant la nuit, parce qu'ils partageaient la même cage pour dormir pendant la nuit, et ils faisaient en sorte que ça se passe bien. Parfois, ils les séparaient, etc. Et alors, après plusieurs années, un jour, il y a deux mâles chimpanzés qui ont décidé de se retourner contre le troisième et qui l'ont attaqué et qui est mort de ses blessures le lendemain. Et donc, quand les gens sont arrivés le matin, ils ont vu ce mâle blessé. Et donc, ben, je dirais, c'est un peu comme chez l'être humain. On a énormément de mécanismes qui préviennent le meurtre et la violence, mais de temps en temps, ça arrive et ça peut arriver de manière brutale et spectaculaire. Ouais. Et c'est là où cette étude, en fait, est intéressante, c'est de comprendre tous les mécanismes, enfin, tout ce qui a manqué, en fait, pour prévenir la violence dans ces deux groupes-là et ce qui a permis de créer une sorte de guerre civile, ouais, entre deux groupes qui étaient des frères à la base. Ouais.
Avec, du coup, une guerre plus de pouvoir que territoriale ou territoriale plus que de pouvoir?
Non, on pense ici que c'est territorial et notamment bon, l'accès à la nourriture, etc. Et c'est vrai que les chimpanzés, ça c'est probablement un des points communs avec les êtres humains aussi, c'est qu'on a tendance quand même à se faire la guerre pour prendre des territoires aux autres.
Ouais. Ça, c'est qu'à côté. Mais au fond, c'était leur territoire commun.
C'était leur territoire commun. Non, ouais. En fait, il y avait le groupe du centre et le groupe de l'ouest. Et c'est, alors, on pense aussi que c'est le groupe de l'ouest qui faisait plus d'expéditions punitives, probablement aussi parce qu'ils étaient plus soudés que les autres. Mmh. Et ils se sont dit, bon, ben, il y a une opportunité à prendre et si on peut grappiller du territoire. Et notamment, on le voit aussi très bien dans le documentaire L'Empire des chimpanzés. Il y a des zones, en fait, il y a des arbres fruitiers qui sont très, où il y a énormément de nourriture et qui sont à la frontière entre les deux territoires. Et on voit qu'en fait, mais ça on le voit chez les autres chimpanzés, quand il y a des attaques envers d'autres groupes, c'est souvent pour prendre du territoire. Et ça, c'est un des autres points communs que chez les êtres humains. Il y a des études en psychologie là-dessus, notamment ce qu'on appelle l'expérience de la caverne aux voleurs, où en fait, quand on met des gens dans des compétitions, ça augmente la probabilité de conflit et de tension entre les groupes. Et ça crée ce qu'on appelle un biais tribal ou un biais de l'endogroupe. C'est-à-dire qu'on va commencer à se replier sur soi, à favoriser son groupe par rapport aux autres, parce qu'on sait qu'on est en compétition avec les autres et que les ressources sont pas suffisantes. Ça peut être, bon, évidemment, dans le cas des animaux, c'est souvent de l'alimentation. Et alors, on prend des territoires pour pouvoir accéder à plus de nourriture. Ça, c'est quand même une des motivations principales.
Ouais. David Bertrand, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des conflits chez les humains qui naissent pour la nourriture? Ou est-ce que ça pourrait arriver ou pour d'autres raisons? Par exemple, on pense beaucoup au changement climatique.
Exactement.
Qui fait que certaines zones vont devenir impossibles à cultiver, par exemple. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait s'attendre, je dis bien pourrait, à ce type de conflit?
Ben en fait, il y a pas mal de spécialistes qui parlent de la guerre de l'eau, enfin que ce sera la prochaine raison pour laquelle on pourra se faire la guerre, malheureusement, ou notamment aussi de plus en plus de réfugiés climatiques, c'est parce qu'il n'y a plus d'accès suffisant à l'eau. Si vous regardez ce qui se passe un peu en Israël et en Palestine, il y a aussi, ou en tout cas dans cette région-là, il y a aussi quand même pas mal de tensions qui existent à cause de cette ressource de l'eau qui est assez rare dans certaines régions, notamment pour l'agriculture, etc. Donc c'est une des causes qui peut expliquer les tensions et les conflits. Et donc évidemment, si les gens n'ont plus suffisamment à manger, n'ont plus évidemment plus accès à l'eau potable, et qu'il y a une compétition pour ces ressources-là, qui sont des ressources vitales et de base, bah bien sûr que ça augmente le risque de conflit. Ouais.
Par contre, autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut se baser sur des mécanismes mis en place par des chimpanzés pour prévenir les conflits, pour se réconcilier, etc., et se dire, tiens, ces mécanismes pourraient être intéressants à étudier pour l'homme?
Oui, moi je pense, parce qu'en fait, il y a toute une série de mécanismes, quand je parlais par exemple de la réconciliation, ce qu'ils disent à la fin, en fait, c'est aussi maintenir le lien. C'est à partir du moment où on rompt le lien, c'est là où les tensions se créent, quand on se parle plus, quand on se côtoie plus, quand on se comprend plus, et bon, ça va peut-être plus loin évidemment chez les humains, mais je pense qu'il y a ce côté quand même de maintenir le lien social pour prévenir la violence, c'est quand même fort présent, et moi je dirais dans les relations familiales, dans les relations de couple, dans les relations amicales aussi, à partir du moment où on ne se parle plus, on vit chacun de son côté, en fait, on vit comme deux étrangers les uns à côté des autres. Moi, ça me frappe aussi énormément. Moi, je suis notamment pas mal touché par ce qui se passe en Israël, en Palestine. Je suis allé une fois là-bas, etc. Et pareil, ce qui me frappe, c'est que ces deux communautés vivent parfois à quelques centaines de mètres les unes des autres, mais dans deux mondes complètement différents. Ils se parlent, dans beaucoup de cas, ils se parlent plus, ils regardent pas les mêmes médias, etc. Ils ont pas la même culture, pas la même religion. Pourtant, à la base, ce sont des peuples qui sont frères aussi. Ils viennent de la même région, ils viennent tous. De Palestine, les juifs, les chrétiens, les premiers musulmans, ben, ils viennent tous de la même région. Et c'est vrai que quand on se parle plus, même quand on vit l'un à côté de l'autre et qu'il n'y a plus de contact, c'est là où les violences, il y a un risque de violence plus important. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant de voir aussi qu'il y a une dimension biologique aussi derrière ça, c'est-à-dire que c'est pas, et c'est là où les chercheurs disaient souvent, la théorie de la guerre, c'est souvent dire on se fait la guerre pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses, pour des raisons culturelles ou ethniques, etc. Et ici, non, c'est pour des raisons relationnelles, en fait, c'est-à-dire c'est vraiment le fait qu'il n'y a plus de contact entre les membres de groupes qui fait qu'à un moment donné, deux groupes distincts se créent. Et que ça risque de créer des tensions. Ouais.
Mais on a aussi le phénomène de l'épouillage. Moi,
ouais.
Je connais le matin.
Moi, pratique l'épouillage.
Ouais, mais non, tellement mais.
On pourrait. Alors, on va pas imaginer des êtres humains qui s'épouillent.
Mais... Si, on peut l'imaginer. Je vais vous donner un exemple très concret.
Oui.
Ah ouais, parce que moi,
les couples. Comment les couples font pour se réconcilier?
Oui, mais... Est-ce que justement, il n'y a pas ce côté du toucher qui est ouais. important, et que sans forcément, même en dehors des couples, parce qu'on parlait là dans la guerre entre différents mmh. êtres humains, à un moment donné, le lien peut se rétablir, mais toucher quelqu'un, mmh. Le prendre dans ses bras, lui prendre la main, ce sont des phénomènes qui s'apparentent à ça et qui ramènent ouais. à une forme d'intimité. Du coup, vous n'êtes plus dans le même rapport ouais. de force avec la personne.
Alors ça, c'est super intéressant, parce que c'est tout ce qui est comportement non-verbal chez l'être humain, ça ouais. m'intéresse beaucoup. Par exemple, le fait de se serrer la main aussi.
Mais oui.
Ouais, tout à fait. Et en fait, on observe des gestes assez similaires chez les chimpanzés qui veulent se réconcilier, où ils se tendent la main. Ou par exemple, qui se consolent, ils se mettent la main sur l'épaule. Et donc, ça renforce le lien social. Donc, probablement que le toucher, et on sait aussi que par ce moment où vous touchez une personne, c'est que vous lui faites davantage confiance. Dans des cas de rencontre ou de séduction, etc., on sait que par ce moment où il y a un contact tactile, c'est que probablement que c'est un bon signe, il y a quelque chose qui se passe entre les deux personnes et que ça renforce le lien. Oui, pareil, entre les liens familiaux, les liens mère-enfant, ce lien affectif passe aussi par le toucher. C'est quelque chose qui est probablement souvent négligé. Puis quand on regarde parfois les réunions, même diplomatiques, etc., on voit maintenant des poignées de main très fermes ou des grosses accolades. Ça me frappe beaucoup de voir, notamment chez les hommes politiques, il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas autant d'accolades de ce qu'on appelle les hugs aux États-Unis. Et je me dis, bon, ben, quand vous avez deux hommes politiques de deux pays différents qui se rencontrent et qui sont une grosse accolade, moi j'ai toujours tendance à me dire que c'est un bon signe.
Oui, mais par contre, ouais. on voit aussi des poignées de main aujourd'hui, chef de certains, qui sont ouais. un peu des rings, quoi. Hein,
exactement.
Qui est la plus grosse et,
ouais.
et on montre qui tient fermement l'autre entre ses mains.
Oui, tout à fait. C'est un peu des guerres, des petits conflits de mâle alpha, comme ça, en mode être humain. Mais je me dis toujours, tant qu'il y a un contact, tant qu'il y a un dialogue, tant qu'on se rencontre, tant qu'on. Ouais, on se touche jusqu'à un certain point et qu'on est proche l'un de l'autre, c'est toujours un bon signe tant que le dialogue et le lien est maintenu, en fait. C'est ce cas, c'est de maintenir le lien, en fait.
Mais ouais. J'imagine que vous avez déjà ressenti ça quand vous rencontrez un ami et il vous prend dans ses bras mm-hmm. ou elle vous prend dans ses bras et vous avez tendance en général à faire un petit hug comme ça puis on s'écarte.
Ouais.
Et là, subitement, la personne que vous avez en face de vous vous garde ouais. dans les bras. Mm-hmm. J'ai toujours ressenti que ça changeait complètement le rapport, en fait, qu'il y avait un ouais. truc qui me ramenait à qu'est-ce qu'on est en train de vivre maintenant et plus à l'attention de l'autre.
Oui, tout à fait.
À l'écoute de ce qu'il est en train de faire.
Oui, et puis on est avec le toucher, il y a énormément d'émotions qui passent.
Ouais.
Et donc, comme tu dis, ça change la relation. Et à l'inverse, quand il y a une tension avec une personne, ou quand il y a. Oui, il y a vraiment on voit qu'il y a une distance physique qui se crée aussi.
Ouais.
Donc ça, c'est quand même
ouais.
fort. Et donc, je trouve que c'est là où il y a un parallèle intéressant. Et c'est souvent quelque chose qui est. Enfin, peut-être dans notre monde occidental, on néglige beaucoup ça. On passe beaucoup plus par. On pense que la parole, notamment. Mais je pense que le toucher.
Et pendant le Covid,
ouais.
où personne
exactement.
Ne pouvait se toucher, là, ouais. on a observé des changements de comportement.
Oui, tout à fait. Il y en a même qui disaient que ce serait peut-être la fin de la bise ou à cause des contacts.
Ah, ben, quand on voit aujourd'hui des adolescents,
ouais.
rappelez-vous de votre adolescence, on se faisait la bise. Aujourd'hui, c'est le
check. Point. Ouais, c'est le check avec le point. Ouais, c'est vrai. Et donc oui, voilà, on sait que le contact physique rapproché renforce les liens. Ça, c'est sûr. Ouais. Et donc c'est probablement une façon de prévenir. Donc serrons-nous les uns les autres.
Qu'est-ce qui nous arrive?
Donc voilà, en tout cas, c'est des mécanismes de prévention du conflit ouais, qui marchent.
David, vous êtes venu aussi avec un petit livre, vous en parliez
oui.
hein, tout à l'heure justement de Franz De Waal,
voilà,
un livre à lire pour ceux et celles qui sont intéressés par le sujet.
Oui, tout à fait. Donc c'est Franz De Waal qui a écrit un livre qui s'appelle Le singe en nous et donc qui fait justement ce parallèle entre à la fois ce qu'on observe chez les chimpanzés, chez les bonobos et chez l'être humain. Et lui, il nous dit qu'on est un singe bipolaire, c'est-à-dire qu'on a à la fois du chimpanzé et du bonobo en nous. Et donc c'est passionnant à lire. Donc un petit conseil de lecture pour les auditeurs.
Merci David Bertrand.
Merci à vous.
Et tout se faire un petit poutou, tiens.
Ouais.
Et je pense que l'Empire des chimpanzés est toujours disponible sur Netflix. Hein.
Je l'ai revu pour cette chronique et c'est toujours aussi impressionnant.
Ouais. Ouais, n'hésitez pas à aller le voir, ce n'est pas du temps perdu, loin de là.
Non.
Merci beaucoup,
avec
David
plaisir,
Bertrand.
Merci à vous.
On poursuit avec The Strokes.